OK, on commence la 66e leçon. Ça va être l'exhibition de l'Alliance de grâce sous la dispensation mosaïque. Alors, dans les leçons précédentes, on avait vu que l'Alliance de grâce avait deux administrations temporelles, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, pas trop compliqué, et l'Ancienne Alliance comprenait trois périodes. On a étudié mercredi dernier la période de Adam-Moïse, on avait vu comment l'Alliance de grâce s'était développée sous les patriarches. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle, la période de Moïse à David, qui la présente leçon. Et après, il va y avoir une autre leçon qui va être à partir de David jusqu'à Christ. Alors, le premier personnage qu'on regarde dans l'exhibition de l'Alliance de grâce ou la dispensation mosaïque, bien, comme des raisons, c'est Moïse lui-même. Moïse a écrit sur Christ. Dans Jean 5, versets 46 et 47, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Alors, dans les Écritures, Moïse est un type éminent de Christ. On rappelle qu'un type, c'est quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, mais qui pointe symboliquement vers Christ dans le Nouveau. Dans le fond, c'est comme Christ vient accomplir ce qui est prophétisé dans l'Ancien. Donc, si on fait une comparaison entre Moïse et Christ, il y a des points qui présentent certaines similarités. Moïse, comme Christ, est un médiateur. Galates 3, verset 19, « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. » Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, la loi avait été donnée au moyen d'un médiateur. Et Moïse, ici, dans les passages qu'on étudie, c'est le médiateur entre le peuple et Dieu. Donc, il y a un parallèle à faire entre la personne de Christ et la personne de Moïse. Aussi, Moïse était un prophète, Christ est un prophète. Deutéronome 5, verset 5, « Je m'éteins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. » Alors, c'est vraiment l'idée que Moïse était un prophète, mais Christ est le prophète avec un P majuscule. Aussi, Moïse était un sacrificateur, Christ est un sacrificateur. Psaume 99, verset 6, Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Alors, quand on est en train d'étudier sur le tabernacle, on voit que le souverain sacrificateur et Christ est le souverain sacrificateur. Alors, l'idée que Moïse était sacrificateur et Christ également sacrificateur. Maintenant, Moïse était un roi. Et on sait, Christ est aussi un roi. Deutéronome 33, versets 4 et 5. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Alors, Moïse était un roi. Alors, si on regarde les similitudes entre Moïse et le Christ, il y en a beaucoup. Il est aussi un libérateur. On sait que Moïse, Dieu s'est servi de Moïse pour libérer son peuple, comme Dieu s'est servi de Christ pour libérer ses élus. Acte 7, verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » Alors, quand on regarde les choses que Christ a accomplies par Moïse et qui préfigurent les choses qui ont été accomplies par Christ, on peut en énumérer quelques-unes. La loi cérémonielle. Quand Christ est venu, non seulement il a accompli tout ce qui touchait la loi morale, donc le décalogue, les 10 commandements, mais il y avait également les lois civiles, les lois cérémonielles. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a accompli non seulement la loi morale, mais il a accompli aussi les lois cérémonielles et les lois civiles. Puisqu'il était juif, il s'est plié à l'observance de toutes les lois de son époque. Donc, la loi cérémonielle, il l'a accomplie. Les sacrificatures, quand on regarde de quelle manière, on est justement en train d'étudier le tabernacle, il y avait plusieurs choses qui préfiguraient Christ à l'intérieur de ça. Il y avait les vêtements, il y avait les types de sacrifices, il y avait toutes sortes de rites, et toutes ces choses-là préfiguraient des choses qui concerneraient Christ à sa venue. Il y avait aussi la Pâque. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » On sait que quand Christ est venu, il continuait d'observer la Pâque telle que exigée dans Exode 12. Il continuait de faire ce que Dieu leur demandait, mais on sait que toutes ces choses-là pointaient, symbolisaient la venue prochaine de Christ. Puis voyez-vous, ici, on dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Christ, notre Pâque. » Alors, l'agneau que les Juifs se devaient d'immoler, qui était exigé dans Exode 12, Christ représentait l'agneau. Autre chose, la manne. Jean 6, verset 32 à 35, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On a aussi une allusion de ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 17. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » On a aussi la question de l'eau du rocher. Quand on lit l'Ancien Testament et on voit que le Seigneur avait demandé qu'il frappe le rocher, qu'il en sortirait de l'eau, on voit dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, verset 4, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Alors, c'est clair, le Nouveau Testament vient interpréter l'Ancien. Autre chose, le serpent d'airain. Jean 3, versets 14 et 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Quand on regarde la quantité de choses qui est décrite dans l'Ancien Testament, qui était fait par Moïse, mais qui, à quelque part, vient représenter des choses que Christ ferait plus tard, c'est vraiment, il y en a beaucoup. Et ça, c'est une étude qui est très brève, mais si quelqu'un se donnerait la peine d'aller regarder dans l'Ancien Testament toute l'histoire de Moïse et en détail regarder comment ces choses-là pointaient vers Christ. Dans le fond, le secret de l'interprétation des Écritures, c'est chercher Christ partout. Il est partout. Deuxième personnage de l'époque mosaïque, c'est Aaron. On est toujours porté à dire Aaron plutôt que Aaron. C'est un peu difficile à prononcer. Les Saintes Écritures nous parlent d'Aaron comme le saint de l'Éternel. Psaume 106, verset 16. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Aussi, Aaron, autre chose qui pointait vers l'exhibition de l'Alliance de grâce, c'est les lumières et les perfections, les Thummim et les Urim. Deutéronome 33, versets 7 et 8. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, Les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Et tout à l'heure, on a vu dans un passage précédent que Aaron avait été déclaré le saint, l'homme saint. Alors, les Urim et les Thummim et les Urim, qui veut dire les lumières et les perfections, ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Les lumières et les perfections, plusieurs pensent que c'est comme les Écritures nous ont donné une multitude d'instructions, une multitude de lumières sur comment nous comporter dans la vie. Mais il arrive des situations où les choses qu'on voudrait savoir ne sont pas nécessairement marquées dans les Écritures. Alors, on pense que c'est souvent les Urim et les Thummim, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas trop comment agir face à une certaine chose, consulte Dieu lui-même. Donc, c'est les lumières et les perfections. C'est comme tu consultes la source même de la lumière et la source même des perfections. C'est pour ça qu'on les donnait au pluriel, les lumières et les perfections. Donc, c'était comme un symbole que le souverain sacrificateur avait les Thummim et les Urim avec lui. C'était comme une façon de dire qu'on peut aller le consulter sur quoi que ce soit, qu'on a un besoin. Aaron était aussi le souverain sacrificateur. Et on sait que dans le Nouveau Testament, le Christ est présenté comme le souverain sacrificateur. Hébreux 5, versets 1 à 6. En effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors, la différence entre le souverain sacrificateur de l'époque d'Aaron et Christ, le souverain sacrificateur à ce moment-là offrait des sacrifices pour ses propres péchés puisqu'il était lui-même pécheur. À la différence, Christ est souverain sacrificateur, mais il n'a pas besoin d'offrir des péchés pour lui, parce que lui-même était sans péché. Alors, il y a une grande différence, mais il y a quand même des similitudes entre le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qui pointait vers Christ. Mais Christ, le souverain sacrificateur, lui, n'était pas de la tribu de Lévi. Et, dans le fond, le texte d'Hébreu vient nous dire qu'il avait reçu, disait que nul ne peut s'attribuer cela sans qu'il soit commandé de Dieu, demandé de Dieu. Alors, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il fallait qu'il soit de la tribu de Lévi. Et Christ, quand il est venu, il venait de la tribu de Juda. Et là, quelqu'un, les Hébreux, pouvait se demander, bien, comment ça se fait qu'il est souverain sacrificateur s'il ne vient pas de la tribu de Lévi? Alors là, il explique que c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Alors, on comprend d'où venait l'autorité de Christ lorsqu'il disait qu'il était souverain sacrificateur. Il y a aussi son intercession. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, un des mandats du souverain sacrificateur, c'était d'intercéder pour le peuple. Alors, il était comme le représentant, il pouvait intercéder pour le bien-être du peuple. Exode 4, versets 14 à 16. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Donc, l'intercession, le fait que Aaron intercède pour le peuple, il y a une similitude avec Christ que lui aussi intercède. On sait qu'on a quelqu'un au ciel qui intercède pour nous de façon constante, notre avocat. Aussi, son office de souverain sacrificateur. Exode 28, verset 1. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Aussi, comparaison avec son rôle d'avocat auprès du peuple. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Alors, on voit que le sacrificateur dans l'Ancien Testament était l'avocat du peuple auprès de Dieu. Troisième personnage qui fait partie de l'époque de la dispensation qu'on pourrait dire mosaïque, c'est Josué. Alors, une des choses qui est comparable avec le Christ, c'est son nom. Son nom en hébreu, c'est Jéhoshua. Alors, Jéhoshua, c'est le nom que Jésus portait aussi, qui est similaire au nom de Jésus. Son nom veut dire « l'Éternel est salut ». Hébreux 4, versets 8 et 9. « Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Donc, le nom de Josué vient démontrer un certain aspect de l'Alliance, du développement de l'Alliance de grâce dans la période mosaïque. Aussi, sa conduite dans le désert. On sait que Josué a conduit le peuple dans le désert. Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Alors, toute l'histoire, quand on lit l'histoire de Josué, dans le livre de Josué, on voit comment Josué était le leader, comment il a obéi à Dieu dans la conquête du pays que Dieu leur avait donné. La conquête de la terre promise. Josué 1, versets 1 à 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Alors, le Seigneur se servait de Josué comme le conquérant, comme celui qui accomplirait les promesses que le Seigneur avait faites au peuple. Il y a d'autres personnages qu'on pourrait considérer comme faisant partie de la dispensation mosaïque et qui viennent à leur tour aussi illustrer l'exhibition de l'Alliance de grâce. Sans aller dans les détails, on peut juste les nommer parce qu'ils font quand même partie de cette période-là de mosaïque. Il y a Rahab la prostituée. On se souvient de Rahab la prostituée. Elle avait envoyé des espions et Rahab avait protégé les espions. Et en contrepartie, elle avait permis qu'ils puissent s'évader parce que le roi avait été mis au courant que de leur présence et ils cherchaient et elle les avait cachés. Et on lui avait fait la promesse de mettre un ruban rouge et que quand les gens conquériraient cette partie du pays-là, que elle serait épargnée et toute sa famille également. Alors, le ruban rouge, ça vient symboliser le geste qu'elle a fait et qui, souvent, j'ai entendu des prédications en utilisant ce passage-là pour parler d'évangélisation, parce qu'il y a des aspects qui parlent d'évangélisation jusqu'à un certain point dans ces passages-là. Alors, Rahab, la prostituée, qui avait protégé les espions et qui avait été récompensée lorsqu'ils ont été conquis protéger non seulement sa vie personnelle, mais la vie de toute sa famille. Il y avait aussi Manoah, qui était le père de Samson. On se souvient, lui aussi avait eu une apparition, sa femme, et avait eu des prophètes, on avait prophétisé sur la venue de son fils et toutes ces choses-là. Alors Manoah aussi est comme une illustration de l'exhibition de grâce dans l'Alliance Mosaïque. De toute le personnage de Gédéon aussi. On se souvient que Gédéon était la plus petite tribu d'Israël et qu'avec 300 hommes, il avait défait une armée de beaucoup supérieure en nombre. Alors on voit que le Seigneur peut se servir de petites choses pour opérer des grandes libérations. Alors c'est tous des aspects de textes de l'Ancien Testament qui viennent à quelque part illustrer l'Alliance de grâce. Et aussi toute l'histoire du prophète Samuel, alors, il y aurait très long à dire là, sur ces choses-là. On pourrait prendre la vie du prophète Samuel et de regarder tout ce qui peut y avoir une certaine similitude avec l'accomplissement de l'Alliance de grâce dans le Nouveau Testament. Alors, tous ces personnages-là, quand on regarde ça, on le regarde rapidement. Il y a Moïse, Aaron, Josué et Rahab, Manoah, Gédéon, prophète Samuel, c'est ça qu'on voit très rapidement. Et il y en aurait d'autres personnages, toute la période entre Moïse et David sont des personnages qui, à quelque part, si on analyse la Bible de l'Ancien Testament avec attention, ça vient toujours nous parler de Christ d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment la clé d'interprétation et de compréhension de l'Ancien Testament. Si on cherche Christ, on le trouve partout, d'une façon ou d'une autre, symboliquement, qui pointe vers lui. Alors, il y a d'autres personnages qui illustrent un aspect ou un autre de la personne ou de l'œuvre de Christ dans cette période-là de l'Alliance Mosaïque. Maintenant, quelles sont les applications qu'on peut faire du texte aujourd'hui? Je dirais, la première, c'est que la dispensation mosaïque regorge de types, de figures. Ça serait une chose intéressante à faire, une étude sur les types. Prendre l'Ancien Testament, regarder tout ce qui dans l'Ancien Testament, que ce soit des personnes, comme Moïse, Aaron, tout ça, que ce soit aussi des institutions, la Pâque, les fêtes juives, les différents types de sacrifices qu'on trouve dans Lévitique. Toutes ces choses-là, les fêtes aussi, il y a différentes fêtes dans l'Ancien Testament. Toutes ces choses-là viennent illustrer un aspect ou une autre de la personne ou de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, les types, les figures dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Et l'étude de la typologie dans l'Ancien Testament, c'est extrêmement riche. Il y a d'ailleurs des volumes complets qui ont été écrits sur ce sujet-là. Et c'est vraiment passionnant de voir toutes ces choses-là, comme juste l'institution du tabernacle. On le sait, on est en train de faire une étude là-dessus, ça parle de Christ à tout partout. Mais l'Ancien Testament est plein de ces choses-là. Alors, dans l'Ancien Testament, cherchons Christ, car il en est le sujet, le thème et le fil conducteur. Deuxièmement, faisons sincèrement cette prière avant de lire l'Ancien Testament. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alors, toute la Bible est remplie de richesses, remplie de symboles, remplie de choses qui pointent vers la personne de Christ. Et c'est une prière à faire avant de lire l'Ancien Testament, ou même la Bible en soi, de dire au Seigneur, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et c'est sûr que c'est le style de prière que je suis convaincu que le Seigneur exauce. Mm-hmm. Et à ce moment-là, notre lecture devient encore plus intéressante, devient encore plus riche. Que l'Éternel nous accorde cette grâce pour sa plus grande gloire. Amen. Amen.